VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, reprise des manifestations à Bujumbura contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza après l'échec du coup d'état du général Godefroy Niambari. Ce dernier vient tout juste d'être arrêté par les forces de sécurité dans la capitale. Trois autres leaders du putsch, notamment le général Cyril Ndaï Rukiye et Zénon Ndabaneze, le porte-parole des putschistes, avaient déjà été appréhendés. Selon la présidence burundaise, le président Pierre Nkurunziza, maintenant de retour au Burundi, devrait s'adresser à la nation aujourd'hui. Pour les tout derniers événements à Bujumbura, Nathalie Borge a contacté sur place Léon Massengo de la radio Bonécha. Elle l'interroge tout d'abord sur le sort des leaders putschistes appréhendés par les autorités.
On ne sait pas où ils sont pour le moment, mais ils devraient se retrouver dans des cachots de militaires ou peut-être au service national de renseignement, parce que les personnes arrêtées, accusées d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, par exemple, sont conduits souvent dans les cachots du Service national de renseignement. Mais comme ce sont des militaires, ils ont probablement été conduits dans des cachots militaires.
Alors, est-ce qu'il y a encore des résistances ou est-ce que vraiment ils ont annoncé la reddition ?
Vraiment pas de résistance. On a entendu les derniers tirs. Il n'y a pas de résistance. Et après la défaite autour de la radio-télévision nationale du Burundi, ils se sont rendus, ils ont reconnu que la loyauté était plus forte qu'eux. Et ce matin, ils ont manifestement montré qu'ils renonçaient à ce plan de coup d'État.
Est-ce qu'il y a eu des victimes ?
Des victimes, des sources militaires que j'ai approchées m'ont dit qu'il y avait eu trois morts, trois militaires tués. Il y a eu beaucoup de blessés. On ne connaît pas vraiment exactement le nombre, mais on sait qu'au cours de ces combats autour de la radio-télévision nationale, il y a eu trois morts, trois militaires du côté des putschistes.
Est-ce que la plupart se rendent ou est-ce qu'il y en a qui sont en fuite hein?
Oui, il y en a qui se sont rendus, d'autres qui on ne connaît pas où ils sont. La plupart de ces militaires qui avaient rejoint le général Niambari venaient de l'intérieur du pays, des camps militaires de l'intérieur du pays. Ils sont probablement retournés là-bas et d'autres, on ne connaît pas où ils sont pour le moment.
Est-ce que le président Pierre Nkurunziza est actuellement au Burundi hein?
Dans les heures à venir, le président Pierre Nkurunziza devrait prononcer un discours à la radio-télévision nationale du Burundi. Et quand il arrivera, on le verra certainement sur les écrans de la télévision nationale. Et il devrait prononcer un discours d'apaisement.
Léon Massengo de la radio Bonécha à Bujumbura. Pourquoi cette instabilité chronique au Burundi? Selon l'historien burundais Deo Akizimana, la crise est indissociable du conflit qui embrase la région des Grands Lacs depuis des années. On l'écoute au micro de Frédéric Nkundikije du service Kirundi-Kinyarwanda de la Voix de l'Amérique.
Le Burundi est au cœur d'une région troublée depuis plus de 20 ans. C'est un conflit géopolitique majeur qui secoue l'Afrique jusqu'au-delà des frontières continentales. Et j'ai le sentiment que même si on ne le dit pas très clairement, c'est difficile évidemment à déclarer parce que je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai le sentiment que la question des contrats miniers, la question du contrôle des ressources est au cœur des rivalités qui sont en train de se jouer et qui se sont manifestées à travers la question du troisième mandat.
Est-ce qu'on peut avoir des détails? Parce que là, vous nous révélez une information tout à fait nouvelle.
Je suis de formation géopoliticienne, donc je cherche la vérité où elle se trouve. J'analyse les non-dits, les on-dits, etc. Et j'ai compris que dans ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il est faux, ne le dites plus, que le Burundi est un pays pauvre. Non, c'est un pays extrêmement riche. Certaines ressources minérales qui se trouvent dans le Congo voisin se trouvent également au Burundi. Nous avons un nickel de haute qualité qui compte parmi les meilleurs de la planète. J'ai entendu que d'autres découvertes ont été faites. Le lac Tanganyika est une richesse stratégique et introuvable nulle part ailleurs en Afrique. sinon qu'au Burundi, au bord de la ville de Bujumbura. Bujumbura est la seule capitale de l'Afrique des Grands Lacs qui est riverain de ce lac Tanganyika, qui est une manne. Vous savez, c'est la deuxième réserve mondiale d'eau douce, un lac très profond dans lequel il y aurait des hydrocarbures, etc. Et vous savez que ça suscite des appétits. C'est l'histoire des guerres par procuration, des guerres où les élites locales vont se livrer à des conflits fratricides en pensant qu'ils sont opposés par des aspects ethniques, régionalistes, claniques, et j'en passe, alors qu'en réalité, ils sont en train de s'entremanger à cause de problèmes de contrôle des ressources.
Deo Akizimana a été candidat indépendant à la présidentielle de 2010 au Burundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, signature aujourd'hui de l'accord de paix d'Alger à Bamako. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains sont annoncés à cette cérémonie, mais la rébellion à dominante Touareg, CMA, ne signe pas et boycotte la réunion. Les pays du Sahel, en première ligne de la lutte contre le terrorisme et le trafic des migrants vers l'Europe, se sont engagés jeudi à intensifier leur coopération. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont, dans une déclaration commune dite de Niamey, reconnu que seule une action commune est à même de relever ces défis. En matière d'immigration, les États se sont engagés à prendre des mesures en amont pour empêcher les migrants d'arriver sur les côtes italiennes. Le Sahel est l'une des zones les plus pauvres au monde. Ses 137 millions d'habitants y vivent avec des indices de développement parmi les plus bas. Ces États peinent à juguler les groupes islamistes tels qu'Acmi ou Boko Haram. Les représentants du G5 Sahel, créés l'an dernier pour contrer la menace terroriste, se sont ainsi engagés hier à mettre en place un système de communication informatisé et sécurisé pour échanger des informations.
Burkina Faso maintenant, les jeunes de Ouagadougou, à l'appel des partis politiques et mouvements sankaristes, sont sortis en masse hier pour accueillir Mariam Sankara, l'épouse du capitaine Thomas Sankara, à son grand retour au pays après son séjour éclair en 2007 pour le 20e anniversaire de l'assassinat du président défunt. Le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Selon le programme établi par le service du protocole, Mariam Sankara se confie à la presse et le cortège s'ébranle pour son pied-à-terre. Mais c'était sans compter avec la détermination des jeunes venus l'accueillir. Ils ont bloqué le cortège pour, disent-ils, entendre Mariam Sankara. Et voici ce qu'elle a dit.
Je suis heureuse, fière, de fouler la terre du Burkina Faso. Cet accueil chaleureux me touche beaucoup. Votre présence massive témoigne de la marque de sympathie et de fidélité que vous avez pour le président Thomas Sankara. En ce moment précis, je pense aussi aux victimes, les martyrs du 30 et 31 octobre, qui, par leur courage et leur détermination, ont fait fuir le dictateur Blaise Compaoré.
Nous avons découvert sur place le fan club Mariam Sankara et sa pointe de Ouidraogo a donné les détails.
Nous avons l'habitude de dire derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc si le président Thomas Sankara a su réussir sa mission, c'est qu'à côté de lui, il y avait Mariam Sankara. Et nous avons eu la victoire. Elle vient également pour que nous puissions fêter cette victoire-là ensemble. Et nous sommes très fiers de l'accueillir à l'aéroport international de Ouagadougou, que très prochainement la Guinée va exiger à ce qu'on baptise l'aéroport international Thomas Sankara.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les États-Unis exhortent les pays d'Asie du Sud-Est à sauver les milliers de migrants en perdition en mer au lieu de repousser leurs embarcations. Un appel lancé par le porte-parole du département, Jeff Ratke, Eddie Sango.
Monsieur Ratke a déclaré au lendemain d'une admonestation de l'ambassade des États-Unis à Bangkok que la priorité est de sauver des vies. Selon lui, les ambassadeurs des États-Unis en Asie du Sud-Est étaient en contact avec les Nations Unies et les gouvernements des pays asiatiques qui refusent l'arrivée des migrants sur leurs côtes. Des milliers d'entre eux, venus de Birmanie et de Bangladesh, était jeudi en perdition en mer en Asie du Sud-Est. Les pays de la région, Indonésie et Malaisie notamment, continuent à repousser les bateaux. Près de 2000 personnes, parmi lesquelles de nombreux Rohingyas, minorités musulmanes considérées comme l'une des plus persécutées du monde par l'ONU, sont parvenues jusqu'aux côtes malaisiennes et indonésiennes ces derniers jours. Les porte-parole du département d'État, qui n'a pas annoncé d'engagement direct des États-Unis dans cette crise, a encore jugé qu'il s'agissait d'un défi régional urgent qui nécessitait d'être réglé de manière régionale.
Pour plus d'infos, consultez notre site internet voafrique.com mais aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'information.